et il se trouve au milieu de l'Ancien Testament. C'est la fin de l'histoire de l'Ancien Testament, mais le livre se trouve au milieu de l'Ancien Testament. Alors, dimanche dernier, nous avons vu comment Satan s'oppose. Il s'oppose au projet du peuple d'Israël en Néhémie 4, lorsque le peuple est en train de reconstruire les murs de Jérusalem. C'était un combat, ce n'était pas juste un projet de construction, c'était un combat. Les ouvriers devaient bâtir avec un marteau dans une main et une épée dans l'autre. Et nous aussi, nous sommes face à ce même type de combat. Et sur le plan spirituel, dès que nous décidons de construire notre vie sur Christ, nous nous trouvons dans un combat spirituel avec les armes dont on lit en Éphésiens 6. La foi, la parole, le salut. Et heureusement pour nous, comme pour les Israélites, nous ne sommes pas seuls. Nous avons les uns les autres. Et nous avons notre Dieu qui combat pour nous. Voilà donc où on est dans le livre de Néhémie, au début ici, au début du chapitre 5. Le peuple a compris le danger, la muraille n'est pas finie, mais ça avance. Du coup, c'est un peu surprenant de lire le chapitre 5 et de découvrir que ce chapitre ne parle pas du tout des murs ou de ce projet de construction. Au chapitre 6, on y reviendra. Mais ici, au chapitre 5, il s'agit d'un autre sujet complètement, au moins au premier abord. Et souvent dans la Bible, s'il y a un passage ou un verset qui semble n'avoir aucun rapport avec ce qui vient avant et après, c'est en fait un signe qu'il faut lire attentivement pour voir le lien. Alors, sachant donc qu'au chapitre 6, nous allons revenir à la construction de la muraille. Lisons chapitre 5 maintenant avec cette question à l'esprit. Quel est le rapport entre cette partie de l'histoire et la construction de la muraille? Quel est le rapport entre ce qui se passe au chapitre 5 et ce projet de construction? Nous allons lire jusqu'au verset 14, à peu près. Donc, Néhémie 5. Les gens du peuple et leurs femmes avaient à se plaindre gravement de leurs frères juifs. Les uns disaient, avec nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et rester en vie. D'autres disaient, nous devons donner nos champs, nos vignes et nos maisons comme gage pour recevoir du blé pendant la famine. D'autres encore disaient, nous avons dû emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer le tribut du roi. En réalité, notre chair est pareille à celle de nos frères, nos enfants sont pareils aux leurs, et pourtant, nous devons vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Plusieurs de nos filles le sont déjà. Et nous sommes sans ressources puisque nos champs et nos vignes sont devenus la propriété d'autrui. C'est Néhémie qui parle, j'ai été très irrité en prenant conscience de leurs plaintes et de ces faits. Et j'ai pris la ferme décision d'adresser des reproches aux nobles et aux magistrats. Je leur ai dit, vous prêtez à intérêt à vos frères? J'ai convoqué une grande assemblée pour traiter leur situation. Et je leur ai dit, nous avons nous-mêmes racheté en fonction de nos possibilités nos frères juifs vendus aux nations. Mais vous? Vous vendez vos frères et vous osez nous les vendre à nous. Ils ont gardé le silence, ne trouvant rien à répondre. J'ai ajouté, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devrez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, ne serait-ce que pour éviter les insultes des nations qui nous sont hostiles? Moi-même, avec mes frères et mes serviteurs, nous leur prêtons de l'argent et du blé. Renonçons donc à ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que l'intérêt que vous avez exigé d'eux, le centième de l'argent, du blé, du vin nouveau et de l'huile. Ils ont répondu, Nous allons les rendre et nous allons rien exiger d'eux. Nous allons faire ce que tu dis. Après avoir appelé les prêtres, je leur ai fait jurer de tenir parole. J'ai même secoué la poche de mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière pour l'arracher à sa maison et à ses biens tout homme qui n'aura pas agi de façon à respecter cet engagement. Qu'un tel homme soit ainsi secoué et se retrouve les mains vides. Toute l'assemblée a dit « Amen » et a célébré l'Éternel. Et le peuple a tenu parole. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Néhémie est en fait il est le gouverneur de Judée et donc de Jérusalem, sous l'autorité du roi de Perse qui contrôle toujours le territoire. Du coup, le projet de construction n'est pas sa seule responsabilité. Néhémie doit en fait gérer toute la région. Et en dessous de Néhémie, il y a deux autres groupes qui ont une autorité dans la ville. Les nobles juifs ou les magistrats et les prêtres. Et nous avons vu que l'un des aspects frappants de ce qui s'est passé au chapitre 3 et au chapitre 4, c'est que même ces deux groupes, c'est-à-dire les prêtres et les magistrats, participent à la reconstruction de la muraille. Le peuple est uni au chapitre 3 et 4. Chacun a son rôle à jouer, et même les gens riches et ceux qui auraient pu se considérer comme trop importants pour travailler, ils y ont tous participé. Et ils étaient tous prêts à combattre si la muraille était attaquée, les uns pour les autres. Et pourtant, ici, au chapitre 5, nous commençons à voir des fissures dans cette unité. Les gens du peuple sont en difficulté et les nobles ne veulent pas les aider. Au contraire, les nobles, les magistrats, ils exploitent la situation pour leur propre gain. Il n'y a pas assez de blé en ce moment et certains juifs ont dû donner leurs propriétés et même leurs enfants comme garant pour avoir le crédit nécessaire pour vivre. Lorsque Néhémie apprend que ce sont les juifs nobles qui exigent un tel prix et qui prennent de l'intérêt en plus, il est furieux. Car la loi de Moïse défend ces pratiques. La belle image que nous venons de voir au chapitre 3, tous les juifs en train de travailler sur la muraille côte à côte, et au chapitre 4, tout le monde prêt à se rassembler au son de la trompette pour combattre les uns pour les autres, commence à paraître que cette image était fausse. En fait, elle n'était pas tout à fait fausse. Il y avait une vraie unité et un vrai désir de travailler ensemble. Mais derrière cette solidarité, il y avait quelque chose de pourri. Quelque chose qui minait la solidarité du peuple et qui risquait de détruire le projet de construction. Autant que n'importe quel danger venant de l'extérieur. Ça ne se voyait pas tout de suite. Au chapitre 3, au chapitre 4, on ne le voyait pas. Mais déjà, ça avait commencé. Il y avait un danger interne qui était aussi dangereux que n'importe quel danger de l'extérieur. Et voilà le premier point pour aujourd'hui. Et la raison pour laquelle ce chapitre se trouve entre deux chapitres qui évoquent les difficultés et les dangers de la construction. Les dangers sont au-dedans autant qu'en dehors. Pour les Israélites, à quoi ça sert d'avoir une muraille qui protège le temple pour adorer Dieu si le peuple se détruit en la construisant? Et si leur adoration est polluée de l'avarice et du conflit? Je pense que vous pouvez bien imaginer les implications pour nous. Ça ne sert à rien de construire un bâtiment ou de construire une assemblée même, d'avoir une salle remplie, d'inviter nos amis, nos prochains, de remplir les 150 chaises que nous allons avoir. Ça ne sert à rien si le cœur de cette communauté est pourri. Je ne dis pas qu'il est, mais c'est un avertissement que nous avons dans ce passage. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui est pourri au sein du peuple juif? dans ce passage. D'où viennent les fissures dans la solidarité? Pour le peuple, au chapitre 5, le problème est en fait double. Premièrement, il ne soucie pas de la justice envers ceux qui sont dans le besoin. C'est le premier. Et deuxièmement, il laisse ce manque de justice et d'amour créer des divisions dans leur propre communauté. Évidemment, pour eux, ces deux dangers sont liés. Mais pour nous, ça vaut la peine de les considérer séparément. Nous allons donc voir ces deux aspects du problème aujourd'hui et son application à notre assemblée. Et puis, nous verrons pourquoi c'est important et brièvement à la fin, comment répondre à ce danger. Donc d'abord, l'injustice. C'est plus précisément ce qu'on pourrait appeler l'injustice sociale. Dans ce chapitre, nous apprenons que le peuple était dans le besoin et les magistrats se servaient de leur propre argent, non pas pour aider ceux qui n'en avaient pas assez, mais pour s'enrichir personnellement. Et comme ça, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Et vous savez, dans les sociétés modernes, surtout celles qui ont hérité les valeurs du capitalisme, c'est souvent comme ça. Le but est de gagner l'argent. Et surtout si on le fait sans mentir, sans voler, on se dit « alors forcément c'est juste ». Même si le prix n'est pas tout à fait correct, si la personne en face est prête à le payer, c'est son problème. Même s'il est coincé, il n'a pas de ressources pour faire autrement, c'est son problème. C'est une version du principe que la force fait loi. La richesse fait loi. Et il faut se demander, en vivant dans cette culture, avons-nous assimilé cette façon de penser, même sans en être conscient. Parce que tout au long de la Bible, nous voyons le contraire. Nous voyons le principe que les puissants sont appelés à aider les faibles. Les riches sont appelés à aider les pauvres. L'exemple par excellence, c'est Jésus lui-même, comme nous l'avons déjà lu à la Sainte Cène. Jésus, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus a fait ça pour nous, pour toi et moi, par la grâce et la grâce seule. Si la nature humaine nous enseigne que chacun doit recevoir ce qu'il mérite et que le plus fort gagne, la Bible nous enseigne qu'en fait, qu'est-ce qu'on mérite? Rien. Personne ne mérite rien. Et pourtant, Dieu nous aime. Tout ce que nous avons, c'est par sa grâce. Le soleil, la pluie, la nourriture, un endroit pour dormir. C'est la grâce pure et simple. Qui sommes-nous donc pour dire que nous méritons notre richesse et que les autres méritent leur pauvreté? Que nous méritons nos succès et les autres méritent leurs échecs? Mais c'est notre façon de penser, en tout cas de la nature humaine. Nous avons en nous un système de mérite au lieu de grâce et d'amour. Et c'est ce qu'on voit chez les Juifs dans ce passage. Bien sûr, la Bible nous dit que chacun doit travailler selon ses capacités. Aider les autres, ce n'est pas une question de récompenser la paresse. Et du coup, nous devons le faire avec sagesse, d'une façon qui aide chacun à vraiment avancer et qui ne crée pas une dépendance malsaine. Mais toujours, toujours, et voici, je pense, le plus grand défi dans tout ça, parce qu'il s'agit de notre esprit. Nous devons le faire toujours sans une attitude de jugement, comme si nous étions meilleurs que les autres. Bien sûr, on peut débattre la meilleure façon de le faire, mais ce qui n'est pas à débattre, c'est notre attitude, qu'elle soit identique à celle de Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous, toute sa richesse pour nous. C'est-à-dire, Dieu nous appelle non simplement à faire preuve d'une générosité avec notre argent et notre temps, même si ça, c'est l'exemple au cœur de cet passage, de ce passage aujourd'hui. Dieu nous appelle à avoir ce qu'on peut appeler une générosité d'esprit, un esprit généreux. Que nos pensées et nos attitudes envers les autres soient généreux. Un état d'esprit qui implique non pas juste de l'aide pratique, mais aussi la grâce et le pardon et l'humilité et l'amour dans tout ce que nous faisons. Avons-nous cet esprit généreux? C'est la question la plus importante ce matin que ce passage nous pose. Parce que si nous n'avons pas cet esprit généreux, nous risquons de tomber dans le genre d'erreur, de péché que les magistrats en Néhémie ont fait. Ils ne faisaient pas attention et leur esprit devenait de plus en plus, de moins en moins généreux. Alors, si le premier aspect du danger dans ce passage est le manque d'un tel esprit, un avarice qui pourrait pourrir le cœur du peuple, le deuxième aspect du problème, c'est les fissures que cette pourriture crée au sein du peuple de Dieu. Et évidemment, nous ne sommes pas dans le même cas de figure que les peuples juifs à l'époque. Là, à Jérusalem, tout était mélangé. Parce que tous les gens de la ville étaient juifs. C'était comme si ici, à Bussy, tous les banquiers, tout le conseil municipal et tous les entrepreneurs et tous nos voisins étaient des protestants évangéliques et en plus qu'ils venaient dans cette église. Et ce serait super, mais c'est vrai que ça compliquerait les choses. Ben, de toute façon, ce n'est pas le cas pour nous. Mais nous devons nous poser la question quand même. Si le principe de la justice et la générosité doit s'appliquer à tous les niveaux de notre vie, comment est-ce que ça s'applique spécifiquement au sein de cette communauté? Et là, je vais prendre des applications qui concernent principalement nos ressources matérielles, parce que ce chapitre commence là. Mais c'est bien entendu que chacun de ces exemples peut s'appliquer aussi à d'autres aspects de notre vie ensemble. Mais prenons alors l'exemple de Néhémie dans ce passage. Nous devons avoir l'habitude de s'entraider au sein de la communauté, comme Néhémie a fait. Non pas juste éviter de maltraiter l'autre, mais de vraiment les aider. L'une des façons pratiques de faire ça, c'est notre association Rayon de Lumière. Cette association a pour but d'aider ceux qui se trouvent dans le besoin à l'extérieur et au sein de l'Assemblée. Mais ce n'est pas le seul moyen. Et il ne faut pas se dire, ah d'accord, Rayon de Lumière s'en occupe, donc moi, je n'ai rien à faire. Nous devons chacun, en tant qu'individu, avoir le réflexe d'aider notre prochain, que ce soit avec notre argent ou notre temps ou d'autres choses. Des fois, c'est l'argent qui est le plus simple. En fait, c'est le temps et l'énergie émotionnelle qui est plus difficile. Alors, deuxièmement, au niveau de la communauté, toujours sur le plan matériel, nous devons gérer nos finances avec sagesse et transparence. Quand Rayon de Lumière, par exemple, veut aider quelqu'un, il faut que ça se fasse avec discrétion et que la décision soit prise par le comité, qu'il n'y ait aucun abus d'un côté ou autre. Et il y a des démarches que nous avons mises en place pour ça. Mais c'est pareil pour les offrandes. Le conseil doit continuer à veiller à ce que les offrandes soient utilisées correctement et avec transparence. Il y a certains, je dis beaucoup même dans cette assemblée, qui donnent de façon sacrificielle. Et c'est bien, c'est ce que la parole nous demande. Et nous ne pouvons donc pas nous permettre d'utiliser cet argent sans réfléchir. Ce serait un abus de vos dons, de vos sacrifices. Nous prenons ça au sérieux dans nos décisions financières, que ce soit au niveau du conseil ou dans l'assemblée générale, que les offrandes qu'on donne, on le fait de façon sacrificielle. Et donc, nous devons respecter les uns les autres par rapport à cela. Alors, dernier exemple, toujours sur le plan financier, concernant les offrandes, parlons franchement. Nous devons reconnaître que ce serait une injustice si ceux qui peuvent donner, et ça nous concerne tous plus ou moins à un niveau ou autre, si ceux qui peuvent donner n'en donnaient pas, ou très peu. Pourquoi dirais-je que ce serait une injustice? Parce que ne pas donner, ça met le fardeau financier sur les autres. Il y a un aspect financier à notre vie ensemble et à notre mission. Nous louons cette salle, nous louons nos locaux, nous payons l'électricité, nous achetons le matériel pour les enfants et bientôt nous entrons dans un nouveau bâtiment avec un crédit à rembourser et des travaux d'aménagement à faire. Toutes ces choses, si nous les utilisons correctement, ce sont des outils pour l'œuvre de Dieu dont nous bénéficions chacun. Et ça veut dire que chacun doit se poser la question, est-ce que je profite de la générosité des autres pour ne pas trop donner moi-même? Ce serait en fait le même type d'injustice qu'on voit dans ce passage. Parce que ce serait de mettre un fardeau sur quelqu'un qui ne peut pas le supporter. C'est injuste. Et là, je vous assure que je ne vise personne. Je ne sais même pas qui donne combien aux offrandes. Ce n'est que Maxida qui sait ça. Et je vous encourage, ne pensez pas aux autres quand je pose cette question. Ce n'est pas le but de culpabiliser et de viser les autres. Pensons chacun à nous-mêmes. Je ne connais pas votre situation, je ne sais pas ce que vous pouvez donner ou ce que Dieu vous demande de donner, mais je connais ma situation. Je sais que je peux donner et je sais combien. Et je sais que si je ne donne pas, c'est Dieu qui voit l'injustice que je commets envers vous et le manque de générosité dans mon esprit. Je sais que dans certaines églises, on n'aime pas trop parler de l'argent. Dans d'autres, on en parle trop. Et dans certains, on n'en parle pas. Mais ici, nous avons cette question dans ce chapitre. Et c'est pour ça que nous l'abordons. Et c'est important parce que c'est une question de justice et de générosité au sein de la communauté. Et si on n'en parle pas, c'est comme ça que les fissures arrivent. Mais à la base, les vrais enjeux sont entre nous-mêmes et Dieu. C'est Dieu qui le voit. C'est Dieu qui voit. Et ça nous amène à la question du pourquoi. Pourquoi ne pas être injuste et mesquin avec nos ressources? Pourquoi pas s'en ficher des autres? Pourquoi avoir un esprit généreux? Premièrement, comme nous ne sommes pas justes et généreux, qu'est-ce qu'on a vu dans ce passage? Nous détruisons notre témoignage. Nous salissons le nom de Dieu devant les autres. Au verset 9, Néhémie l'a dit. Il dit au magistrat, « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devrez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, ne serait-ce que pour éviter les insultes des nations qui nous sont hostiles? Vous aurez dû vous aimer les uns les autres, au moins pour ne pas être insultés par les autres nations. » C'est-à-dire pour que le nom de Dieu ne soit pas calomnié parmi les nations à cause du peuple d'Israël. Pour nous, ça nous rappelle que ceux qui ne connaissent pas Dieu ne le voient qu'à travers nos actions. Vous en rendez compte? Si nous sommes justes et généreux, les autres vont comprendre que Dieu est juste et généreux. Mais si nous sommes injustes et mesquins, ils vont imaginer que Dieu est injuste et mesquin. Notre sœur Véronica me disait récemment que dans ses études pour devenir assistante sociale, ils étudiaient le fait que dans l'histoire de l'Europe, c'était souvent l'Église qui était derrière les mouvements sociaux pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Et c'est vrai. Voilà par exemple pourquoi le grand hôpital à Paris s'appelle l'Hôtel de Dieu. Et quel beau contraste avec l'image qu'on peut parfois avoir quand on étudie plutôt les croisades et les guerres de religion. Que nous le voyons ou pas, nous qui nous appelons chrétiens, nous représentons Dieu au monde. que son nom ne soit pas calomnié à cause de notre manque de générosité. C'est le premier, la première raison. Deuxièmement, Néhémie dit, agir avec justice et générosité veut dire marcher dans la crainte de notre Dieu. Là, il parle de la crainte qui signifie le respect. Respect extrême et radical, parce que là, on parle du maître de l'univers. On ne rigole pas avec ses commandements. Et pourquoi? Bon, déjà, parce qu'il est Dieu. Mais aussi parce que Dieu, il est comme un père qui a donné ses commandements pour le bien de ses enfants. Il les aime. Et ici, en Néhémie 5, ses enfants sont en train de se maltraiter les uns les autres. Parfois, on n'aime pas trop l'image de Dieu en colère qu'on voit surtout dans l'Ancien Testament. Mais il ne faut pas oublier que lorsque Dieu est en colère, c'est parce que d'une façon ou autre, son peuple est en train de faire du mal les uns aux autres. C'est pareil, en fait, avec Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus se met parfois en colère, surtout avec les pharisiens. Et ce n'est pas parce qu'ils essaient de suivre Dieu et ils le font imparfaitement, comme nous tous. C'est parce qu'ils maltraitent le peuple. En Luc 11, Jésus dit aux pharisiens, « Malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même d'un seul droit. » Et là, ce n'est même pas au niveau financier, mais spirituellement, émotionnellement, il charge les autres de ses fardeaux. Exactement comme les magistrats ici en Néhémie. Mais Néhémie, par contre, il fait l'inverse. Il dépense son propre argent pour racheter ceux qui étaient vendus en esclavage. Et dans la partie du chapitre qu'on n'a pas lu, Néhémie dépense son propre argent pour assurer les grands festins qui sont sa responsabilité en tant que gouverneur, au lieu de mettre ce fardeau sur le peuple par les impôts. Tout ça, dit-il, il le fait par crainte de Dieu. Néhémie, il parle très sévèrement aux nobles parce que ce sont les puissants dans la société et il maltraite les faibles. Comme s'il ne savait pas que Dieu se penche sur les pas des faibles, des pauvres, des opprimés. Les magistrats n'ont aucune crainte de Dieu, mais ils devraient l'avoir parce qu'ils oppriment les gens que Dieu, des gens que Dieu aime. Dieu aime ceux qui sont dans le besoin. Dieu aime les faibles. Quand on les opprime, on se met du mauvais côté de l'Éternel. Pire encore, ce manque d'amour pour les autres indique qu'ils n'ont pas un vrai amour pour Dieu non plus. Leur adoration est un mensonge, parce qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans aimer son prochain. Vous connaissez le verset 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, par exemple, en Osée 6, la phrase bien connue qu'on a lue même ce matin quand Jésus le reprend. Je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Nos gestes d'adoration ne servent à rien si nous n'aimons pas notre prochain. Vous voyez, si je suis là en train de chanter ces chants de louange et de prier et je déteste mon prochain, Dieu dit que je suis un menteur. Parce que ma haine est incompatible avec son amour. C'est comme si tu me dis que tu m'aimes, mais tu détestes mes filles. Hein? C'est pas possible. Déjà, parce que c'est pas logique, parce qu'elles sont magnifiques. Mais, c'est le papa qui parle. Mais si tu m'aimes vraiment, tu vas aussi aimer ce qui m'est cher. Et ça ne veut pas dire simplement ne pas détester ton prochain. Ça veut dire ne pas rester indifférent face à ses souffrances. Ne pas passer de l'autre côté de la rue comme les hommes religieux dans la parabole du bon samaritain. Mais cela n'est pas facile. C'est toujours plus facile de passer de l'autre côté, de rester sur l'autre côté de la rue. C'est plus facile de ne pas appeler la sœur qu'on n'a pas vue depuis longtemps. C'est plus facile de ne pas initier la conversation difficile qui serait nécessaire pour rétablir la relation. C'est plus facile de ne pas demander pardon, de ne pas dire la vérité, de rester devant la télé, de passer du temps avec ses amis et de laisser seule la personne qui est seule. Tout ça, c'est plus facile que l'amour. L'amour, c'est difficile. Agir avec amour, comme nous avons vu pour la construction de la muraille, ça va nous coûter. Ça coûte cher à Néhémie et aux autres nobles qui ont décidé d'obéir. Et là, gloire à Dieu, ils ont entendu la parole et ils ont décidé d'obéir. Et la question pour nous, c'est que quand nous lisons ce chapitre, est-ce que nous allons avoir la même réaction? Allons-nous dire, oui, nous allons faire ça parce que Dieu l'a dit? Ça va coûter. Ça peut coûter au niveau émotionnel. Ça peut nous coûter de l'énergie. Ça peut coûter de notre temps. Dans chaque aspect de notre vie, Dieu nous demande d'utiliser ce que nous avons pour le bien des autres. Au travail, dans la ville, dans nos maisons, dans nos relations. Alors, si c'est si difficile, comment faire? Où trouver la force pour ça? Et on va terminer brièvement avec cette question du comment. Comment avoir un esprit généreux? Où trouver la force? Je pense que pour nous, en fait, la réponse se trouve un peu cachée au milieu de ce passage. Il y a un groupe dans ce passage qui, s'ils avaient les ressources, qui n'auraient pas manqué à aider les autres, il me semble. Ce sont ceux qui ont été déjà rachetés de l'esclavage par Néhémie. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais au verset 8, Néhémie dit, « Nous avons nous-mêmes racheté, en fonction de nos possibilités, nos frères juifs vendus aux nations. » Ces frères dont il parle avaient été esclaves en Babylone. Et certains juifs qui avaient les moyens les avaient rachetés, pour qu'ils puissent revenir en liberté à Jérusalem. Vous avez compris, pendant l'exil, le peuple a été pris dans l'esclavage. Et pour qu'ils puissent revenir, certains ont racheté ceux qui étaient toujours esclaves. Ils avaient été sauvés, rachetés de leur esclavage. D'où la colère de Néhémie que certains s'étaient retrouvés en esclavage à cause de l'avarice des magistrats, les frères juifs. Ces anciens esclaves, là dont on parle, ils avaient été sauvés par Néhémie et les autres. Ils savaient ce que c'était d'être impuissants et d'être rachetés de leur esclavage. Qui d'entre eux n'aurait pas aidé son frère ou sa sœur dans la même situation? Qui d'entre eux aurait méprisé quelqu'un dans le besoin après avoir vécu la même chose? Le Nouveau Testament nous dit que nous tous, nous avons été esclaves, esclaves du péché. Et c'est Jésus, si nous avons mis notre foi en lui, c'est Jésus qui nous a rachetés de l'esclavage spirituel. Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs, c'est Galates, Galates 4, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. C'est ça la clé à la générosité. Si nous avons mis notre foi en Christ, nous sommes tous des pauvres pécheurs qui ont été rachetés. Nous avons tellement reçu. Nous sommes tous les faibles qui ont été sauvés par le sacrifice de quelqu'un d'infiniment plus puissant que nous. Comment ne pas se sacrifier pour les autres? si nous devons aimer les uns les autres, si nous devons aimer Dieu, nous le faisons non pas comme des esclaves qui aiment, entre guillemets, sous la contrainte de la loi. Nous aimons comme des enfants bien-aimés. Et ça fait toute la différence. Des enfants qui ont maintenant l'esprit généreux de notre Père en nous. C'est l'esprit qui nous donne la force pour aimer Dieu et notre prochain. Nous qui avons été sauvés de l'esclavage du péché, nous savons ce que c'est d'avoir quelqu'un qui donne tout pour nous racheter, qui donne sa vie même pour que nous puissions vivre. Comment ne pas vouloir donner notre vie pour lui et pour le monde qui lui est tellement cher? Comment ne pas avoir un esprit généreux avec cet esprit, avec l'esprit du Christ en nous? Néhémie, quand il rachète les esclaves, il est l'image du Christ qui vient et nous rachète. Et nous rachète. Il est l'image de notre Sauveur. Et la question que notre Sauveur nous pose, c'est: est-ce que vous allez répondre comme les magistrats qui, quand ils ont vu leur péché, ont dit: ça, nous allons le faire. Nous allons obéir. Nous allons vivre avec un esprit généreux, comme notre Dieu. Je vous invite à vous lever pour chanter à ce Dieu qui nous a libérés de notre esclavage.